autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Il est plus facile de casser un atome qu'un stéréotype, disait Einstein. Pourquoi les carrières scientifiques sont-elles souvent assimilées à des métiers d'hommes ? Pourquoi les femmes de science sont-elles souvent absentes des manuels scolaires ? Comment modifier l'image du chercheur et de l'ingénieur dès l'école ? Pourquoi les garçons sont-ils plus nombreux dans les filières scientifiques et techniques ? Comment expliquer les disparités ? Comment les corriger ? Comment enseigner les sciences et les techniques de manière inclusive ? Comment former les enseignants et les parents ? Comment encourager les vocations chez les jeunes filles ? Autour de la question « Quelle est la place des femmes dans les sciences ?» la réalisation est signée Apolline Verlon-Raison.
Les femmes aussi, elles sont exceptionnelles. Quand on voit des idées de personnes qui ont eu des prix Nobel, tout le temps c'est des hommes et tout. C'est grâce à nos professeurs, quand ils nous ont fait les ateliers sur les femmes exceptionnelles, ça nous a ouvert nos yeux et on s'est dit que « Ah ouais, quand même !» Il y a énormément de femmes qui ont fait énormément de choses et qu'on ne les connaît pas assez bien, alors qu'elles devraient être encore plus connues. Par exemple, il y a Cecilia Payne-Gaposchkin, Nettie Maria Stevens, Marie Curie. Elle est assez connue quand même.
Par exemple, des femmes scientifiques, on en connaît très peu, alors que des femmes dans d'autres domaines, par exemple actrices ou ce genre de choses, là on en connaît beaucoup et je trouve ça un peu triste.
La voix des élèves du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, interviewée mardi à la Cité des Sciences par Raphaël Constant. Précisons que Cecilia Payne-Gaposchkin est une astronome anglo-américaine, la première femme chef du département d'astronomie de Harvard. Bonjour Evelyne Nakache.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'Université de Caen et vice-présidente de l'association Femmes et Sciences. Bonjour Marie-Agnès Bernardis.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission à Univers Sciences et coordinatrice du projet Hypatia. Alors c'est un programme européen pour promouvoir l'égalité et lutter contre les stéréotypes. On entendra tout à l'heure la totalité du reportage de Raphaël Constant lors d'un atelier, un des nombreux ateliers que vous organisez ces jours-ci à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un mot très très général pour commencer. On a l'impression que chaque 8 mars on fait un peu la même émission, mais est-ce que cette année... On n'a pas des raisons d'être un peu plus optimiste, Evelyne Nakache.
Alors, je ne sais pas, mais il est un fait qu'on parle de plus en plus des femmes. Peut-être pas forcément dans les sciences, mais on en parle de plus en plus. Et les dernières émissions sur Balance ton porc, etc., parlent plutôt de la violence envers les femmes. C'est très clair. Les femmes scientifiques, c'est pas très souvent, malheureusement.
Marie-Agnès Bernardis.
Moi, je pense qu'on a des raisons... d'être un petit peu plus optimiste peut-être, parce que il y a depuis plusieurs années en France des politiques publiques qui sont des politiques volontaristes, qui rejoignent d'ailleurs les politiques européennes, hein, puisqu'on parlera tout à l'heure de ce projet Hypatia qui est financé par l'Union européenne, et qu'il semble que dans tous les secteurs, dans le domaine des violences faites aux femmes, dans le domaine de l'égalité professionnelle, dans le domaine des études et des métiers, on a des choses qui bougent. Et puis quand même, il faut constater que les choses avancent. Elles avancent à la fois parce qu'il y a des lois et puis parce qu'on espère qu'on va aller vers une égalité réelle. Ce qui est le grand enjeu, c'est non seulement d'avoir des dispositifs juridiques et légaux, mais c'est effectivement que tous ces dispositifs soient réellement mis en œuvre.
Evelyne Nakache, un mot pour présenter cette association Femmes et Sciences. Elle est née en 2000. Elle est née comment ? De quelle prise de conscience ?
Alors en fait, c'est trois normaliennes qui ont créé cette association. Je pense que elle a été créée parce qu'elles ont senti que la place des femmes n'était pas celle qu'elle devait être. Et toutes les trois étaient en fin de carrière, donc elles pouvaient se consacrer à ce type d'association parce que c'est très chronophage. Et donc très très vite l'association a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que au début elles étaient trois, puis quelques années après elles étaient plus d'une trentaine. Et au fur et à mesure, si vous voulez, du temps, leurs activités leur ont amené beaucoup de sympathisants et puis de membres. Et aujourd'hui, nous sommes 300 membres environ. Nous allons dans les lycées, les collèges, etc. Nous voyons 8000 élèves par an. Ce sera 10 000 élèves cette année, d'ailleurs. Si vous voulez, on nous connaît de plus en plus. On nous sollicite de plus en plus pour venir dans les classes. Et on a, par le fait, si vous voulez, une sorte de réputation auprès des institutions publiques, comme les ministères, par exemple le ministère de l'Éducation nationale et celui de la recherche universitaire, et puis celui des droits des femmes, en fait le secrétariat aux droits des femmes, par exemple. Voilà.
Alors, on a eu envie, tout au long de cette émission, de vous faire entendre la voix de femmes qui comptent dans le domaine des sciences. Je voudrais vous faire écouter tout d'abord celle de la biologiste Nicole Ledouarin, qui était notre invitée l'an dernier.
Les femmes ont un cerveau qui est aussi bon que celui des hommes. Et je dirais que la science n'a pas de sexe et que par conséquent, il faut donner leur chance aux femmes.
Est-ce que ça a été un problème pour vous quand vous avez commencé ?
C'est-à-dire que c'est grâce à Étienne Wolff que je me suis lancée, parce qu'il m'a encouragée à le faire. J'avais plutôt l'impression que je ne pourrais jamais avoir mon laboratoire à moi. Et il m'a dit que si, que j'étais capable. Et il m'a conseillé à l'époque de postuler pour un poste de professeur d'université, alors que je pensais rester comme chercheur au CNRS. Et à l'époque, les chercheurs au CNRS étaient souvent dépendants d'un professeur d'université. Il m'a dit, il faut que vous le fassiez, vous en êtes capable. Je l'ai fait et j'ai pu développer ma propre ligne de recherche.
Marie-Agnès Bernardi, ce parcours de Nicole Ledouarin, c'est un parcours vraiment de pionnière. Aujourd'hui, si on donne des chiffres, 33% de femmes chercheuses au niveau de l'Union européenne, pour la France seulement 27%. C'est
alors,
le chiffre que vous donnez.
On est en dessous de la moyenne européenne. Et donc, il y a du chemin à faire pour avoir plus de femmes chercheuses. Pour cela, eh bien, il faut à la fois que les femmes s'orientent et que les jeunes femmes s'orientent davantage vers certaines filières scientifiques et technologiques où elles sont minoritaires. Elles sont, alors, l'orientation est sexuée, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Les élèves, très tôt, en choisissent, par exemple, des options qui sont genrées. À partir de la première, on voit que les filles s'orientent davantage vers les filières santé et sociale. Les garçons choisissent des options qui vont les conduire plus tard à choisir des métiers d'ingénieur. Donc il y a cette forte disparité et ces choix différents, cette orientation différente selon qu'on est fille ou garçon. Alors pour qu'il y ait plus de chercheuses, globalement, il faut qu'il y ait aussi plus de jeunes femmes qui choisissent des filières où elles sont minoritaires. Les filières où les filles sont minoritaires, ce sont les mathématiques, l'informatique, la physique, les sciences de l'ingénieur. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a aujourd'hui 27% de filles, de jeunes filles. Ça a progressé beaucoup, mais on est encore loin de la parité.
Évelyne Nakache, votre propre parcours professionnel est très intéressant parce que vous avez choisi une filière, la physique, majoritairement masculine, et vous avez eu une carrière de chercheuse plutôt tardive.
Oui, c'est vrai. En fait, si vous voulez, je suis ingénieure chimiste au départ. Et donc, j'ai commencé par faire, comme tous mes camarades, on était 13 dans une promo de 300, 13 filles dans une promo de 300. Et nous avons choisi toutes d'être ingénieures. Ça a duré, pour ce qui me concerne, un an. Le temps de me faire harceler pour me faire mettre à la porte parce que j'étais une femme. Et puis ensuite, si vous voulez, je suis passée au CNRS sur un contrat où j'ai travaillé sur la pile à combustible. C'était les années 66-67. Et là, je me suis retrouvée encore dans un milieu d'hommes. C'était un petit peu plus vivable, je dirais, mais c'était difficile. Et donc, très très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre voie possible qui m'intéressait d'ailleurs beaucoup plus, c'était la recherche. Et donc, à l'âge de 30 ans, je suis arrivée à l'université, dans un labo géré par une femme, cette fois-ci, et j'ai choisi une femme pour être tranquille. Et j'ai donc fait une thèse, à l'époque on en faisait deux, j'ai fait les deux thèses, et puis j'ai parcouru le cycle normal, c'est-à-dire assistant, maître assistant, à l'époque c'était ça. Maître assistant sont devenus maître de conf, et ensuite, à l'âge de 50 ans, puisqu'il fallait quand même bien que je poursuive une carrière correcte, j'ai demandé à être professeur. Et à Paris, on ne prend pas de femmes de 50 ans, c'est pas possible.
Et pourquoi ? Enfin, on vous donne une raison ?
Ben parce que Paris est un milieu un petit peu spécial, où d'abord, si vous n'êtes pas normalien, vous avez un petit peu moins de chance que les autres de passer. Ensuite, vous êtes une femme, donc vous avez eu des enfants, donc vous avez publié moins. Et j'ai eu la chance qu'en province, on soit intéressé à la matière molle sur laquelle je travaillais. Et donc, j'ai trouvé un poste à Caen où j'ai travaillé sur les polymères et les nanoparticules, etc. Et je me suis éclatée, comme disent les jeunes.
Alors, on va continuer avec vous deux à s'intéresser de près aux constats, aux chiffres, en les comparant avec les années et les décennies précédentes, mais aussi avec les autres pays, hein, puisque ce programme que vous coordonnez, IPASIA, est un programme à l'échelle européenne. On en parle juste après Destiny Child, Independent Woman sur RFI. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fall. The clothes I'm wearing.
Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet.
Destiny Child, Independent Woman sur RFI, autour de la question quelle place pour les femmes dans les sciences. Alors pour déclencher les vocations scientifiques des jeunes filles, il est important de faire parler des femmes de sciences, hein, des professionnelles reconnues. Écoutez la voix de Sophie Desarts, elle est chimiste.
Je suis chimiste, je suis ingénieur-chercheur, je partage mon temps entre mes activités de recherche et un rôle de chef d'installation au centre de Saclay qui consiste à être responsable de la sécurité des personnes et des biens du CEA. J'ai fait un bac aujourd'hui qui s'appelle SSVT, hein, ça s'appelait le bac D. J'ai fait après un IUT de chimie dans le nord de la France. Et j'ai commencé à travailler dans l'industrie agroalimentaire, hein, dans la Somme, où je faisais les contrôles de la fabrication de cette usine. Donc un travail relativement répétitif, et j'y ai travaillé 2 ans, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas me satisfaire ce type d'activité. Le CEA a croisé ma route par chance en 86, juste avant la catastrophe de Tchernobyl, un moment où le nucléaire était vraiment remis en question dans l'opinion publique, ce qui a d'ailleurs effrayé mes parents, qui se demandaient ce que j'allais faire là-dedans. Mais moi, ce monde-là me fascinait. Donc j'ai rejoint le CEA en 86 et tout de suite, j'ai entrepris de faire mes études de chimie organique au Conservatoire des Arts et Métiers.
Voilà, on trouve l'intégralité de cette interview sur le site de l'association Femmes et Sciences. Et de votre côté, Marie-Agnès Bernardis, à Universcience, vous organisez aussi des rencontres entre les élèves et les femmes de sciences, enfin, les hommes ou femmes de sciences d'ailleurs. Et si on prend précisément un parcours scolaire, à partir de quand commencent les différences ? C'est à la fin de la seconde, au moment du choix de l'orientation, à la fin de la seconde ?
Je pense que c'est plutôt à la fin de la première. Non, vous avez raison, à la fin de la seconde, oui, l'entrée en première, excusez-moi. L'entrée en première, à ce moment-là, les élèves se déterminent sur les différentes filières, mais ceci dit, c'est avec la nouvelle réforme, c'est fini. Donc on aura un autre programme qui n'est pas encore tout à fait bien défini et qui doit commencer pour la seconde l'année prochaine. Et ensuite, en première, les choix vont être différents parce qu'il n'y aura plus des grandes filières comme aujourd'hui, mais plutôt, si j'ai bien compris, des sortes d'UV, un tronc commun et puis ensuite des unités de valeur que les élèves vont choisir et ils en ont une très grande quantité, d'après ce que j'ai compris.
Mais Marie-Agnès Bernardi, si on prend le système alors tel qu'il est encore actuellement, on voit que les inégalités dans le choix des filières se creusent au fur et à mesure de l'avancée du parcours.
Alors,
elle persiste. Il y a 50%, à peu près 50% de filles dans l'ensemble des classes, mais que si on prend les filières, alors là, ça devient très, très inégalitaire.
Alors, les choix d'orientation se creusent effectivement au fil des années. Si on prend la terminale S, il y a presque 47% de filles en terminale S. Alors il faut savoir que les filles, alors ça c'est Françoise Vouillot qui est une chercheuse et qui est spécialisée sur ces questions d'orientation, elle fait le constat et de nombreux chercheurs et chercheuses font le constat que les filières où il y a majoritairement des filles sont délaissées par les garçons et l'inverse. Donc il s'agit, et c'est pour ça que le programme européen Hypatia est intéressant, il s'agit de s'adresser aux filles
et aux garçons.
Parce qu'il n'y aura pas de mixité sans qu'on fasse reconnaître aux garçons que les filles ont les mêmes compétences qu'eux et qu'on donne confiance aux filles dans leurs compétences pour que, par exemple, lorsqu'elles aiment les sciences et les technologies, elles puissent choisir des métiers dans ce domaine-là, métiers qui sont porteurs d'emplois et qui sont souvent bien mieux rémunérés que les filières dans lesquelles les filles ont tendance majoritairement à aller.
Mais si on prend la médecine, par exemple, c'est un contre-exemple absolu, parce que là, il y a beaucoup plus de filles qui vont en médecine.
Oui, parce que les filles choisissent toutes les professions autour du care, entre guillemets.
Du soin.
Du soin, c'est ça. Et les garçons n'aiment pas, sauf la médecine, les garçons quand même, vous en avez pas mal en médecine, bien qu'ils ne soient pas majoritaires, eux, c'est plutôt ingénieurs, c'est plutôt toutes les professions qui demandent autre chose que le care.
Voilà. Il y a un article extrêmement intéressant de Catherine Vidal, qui est spécialiste du cerveau, dans la brochure que vous éditez, Les femmes, les sciences, et au fond, elle s'interroge pour savoir s'il y a une différence de cerveau entre le cerveau des filles et le cerveau des garçons. Et est-ce que... Non, alors évidemment non. Mais en revanche, la différence vient du milieu, c'est-à-dire que on stimule plus les bébés, les jeunes enfants dès le départ.
Voilà, oui, l'éducation commence très jeune. Ouais. Oui. À ce propos, au sujet du cerveau, c'est vrai qu'en moyenne, les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, mais si vous rapportez ça à leur taille ou à leur poids, vous retombez sur vos pieds, c'est-à-dire que ça s'équivaut. Alors, pour ce qui concerne la question que vous posiez, c'est-à-dire, excusez-moi,
sur le cerveau, et la stimulation des jeunes enfants,
et la stimulation des jeunes enfants,
du langage aussi, oui.
Ça commence très très tôt, c'est-à-dire que déjà un bébé, on va l'habiller en rose ou en bleu, on va lui proposer des poupées, on va lui proposer des choses qui s'agitent pour un garçon. Dès qu'il va avoir 2 ans ou 3 ans, ça va être le garage pour les garçons, ça va encore être les poupées pour les filles. Donc c'est très vite une séparation entre les activités des uns et les activités des autres, et qui va augmenter avec le temps.
Voilà, on va voir précisément dans la deuxième partie de cette émission comment casser ces stéréotypes auprès des filles et auprès des garçons autour de la question « Quelle place pour les femmes dans les sciences ?» Marie-Agnès Bernardis, Evelyne Nakache, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur RFI. À tout de suite.
question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, quelle place pour les femmes dans les sciences, avec Evelyne Nakache, vice-présidente de l'association Femmes et Sciences, et Marie-Agnès Bernardis, coordinatrice du projet Hypatia pour Univers Sciences. Rappelons que c'est un projet européen qui regroupe des personnes venant de 15 pays. Alors on a parlé tout à l'heure du constat de la moins grande présence des filles dans certaines filières scientifiques et techniques. On a également abordé la question du cerveau des filles et des garçons. On va s'intéresser maintenant à la manière dont on peut casser les stéréotypes. Écoutez la voix de l'anthropologue Françoise Héritier, disparue en novembre dernier.
Nous le reproduisons tellement naturellement, ce modèle, que ça demande une lutte, une vigilance de tous les instants, déjà sur soi-même, avant de le faire sur les autres, pour pouvoir le changer. Alors, je trouve remarquable, déjà, qu'avec les actions qui ont été menées par des groupes féministes, disons, depuis le 19e siècle, qu'on ait pu, en un temps si bref, un peu plus d'un siècle, obtenir déjà un certain nombre de changements significatifs par la loi, me paraît déjà une chose absolument remarquable. Parce que une des choses qui me frappe le plus dans les réactions contemporaines, auprès de jeunes femmes notamment, de très jeunes femmes, jeunes filles et très jeunes femmes, c'est qu'elles ont l'impression que tout est acquis, qu'on n'a plus rien à faire. Elles ne voient pas les inégalités professionnelles. En tout cas, l'enseignement est ouvert à tous et à toutes, apparemment sans discrimination. Donc, elles ne voient plus ce qu'il y a à gagner. Mais malheureuse, tout est à gagner. Parce que la loi a changé sur un certain nombre de faits essentiels. Mais la loi toute seule ne change pas les modes de représentation.
Une réaction l'une et l'autre à ce que vient de dire François Héritier.
C'est très juste. On a beaucoup de lois qui ont été votées ces derniers temps, mais l'application ne suit pas souvent. C'est le problème.
Marie-Agnès Bernardis, la question des stéréotypes, c'est vraiment là-dessus que vous travaillez, et les stéréotypes, on voit bien qu'ils sont intégrés, et notamment par les femmes.
Alors, les stéréotypes, ils sont partagés par tout le monde. Déconstruire les stéréotypes, réfléchir sur les stéréotypes, prendre conscience surtout que des stéréotypes sont présents dans notre environnement, c'est essentiel pour redonner un petit peu plus de liberté aux filles et aux garçons. Alors, Univers Sciences, qui est un établissement de culture scientifique et technique, un des plus importants en Europe, qui reçoit presque 3 millions de visiteurs, et qui a obtenu le label égalité-diversité, ce dont on est très fiers, on l'a obtenu en janvier, participe précisément à ce projet européen, puisque c'est dans la continuité de ses engagements pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des sciences et des technologies. Et déconstruire les stéréotypes, travailler sur ce qui peut limiter justement la liberté de choix, c'est un des axes de ce projet européen. On a élaboré une boîte à outils qui est à disposition du corps enseignant, des professionnels de la culture scientifique et technique dans les musées ou les centres de sciences.
On la trouve en ligne sur le site
d'Univers. Même des chercheurs et des chercheuses, de manière à ce que précisément ils puissent mener des activités comme celles qu'on a menées jeudi et qu'on mène encore aujourd'hui, des ateliers qui permettent, en montrant des visuels à des élèves, en leur demandant de regarder ce qu'ils observent. Et bien sûr, on leur montre des visuels stéréotypés, mais on est environné on a beaucoup de stéréotypes autour de nous. Ça permet aux élèves de prendre conscience de ces stéréotypes qui les environnent, et puis peut-être de réfléchir à la manière dont ces stéréotypes peuvent influer sur leur orientation.
Alors on va justement écouter le reportage de Raphaël Constant, qui s'est rendu mardi dernier, le 6 mars, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, et elle a rencontré une classe de première ST2I, sciences et technologies de la santé et du social, du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. Et cette classe a décrypté l'affiche d'une campagne de recrutement.
On va travailler ici à partir d'images. Pourquoi les images ? Parce que des images, il y en a partout autour de nous. Il y a évidemment toutes les pubs, on prend le métro, on se balade dans la rue, les affiches de cinéma. Il y a toutes les images sur Internet. On passe notre temps à regarder des images. Et à l'intérieur de ces images, les stéréotypes sont récurrents. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. Au bout d'un moment, ça rentre. Et nous, on a tendance à reproduire la même chose et à catégoriser. Moi, je vais vous proposer qu'on travaille ensemble pour vous aider à réfléchir sur cette campagne. Donc le CNRS, un centre de recherche qui recrute des chercheurs, hommes et femmes, en 2015 et qui fait cette campagne d'affichage. Donc, qui est-ce qui peut me dire ce que vous observez par rapport au cadrage ?
Moi, j'ai dit qu'on voyait bien le visage de la femme, qu'on voyait bien son physique, comparé à l'homme qui a un peu de profil et on ne s'intéresse pas trop à son physique, en fait.
Nous, on a dit que l'homme, il regarde vers l'avenir.
Il regarde vers l'extérieur du cadre, on peut dire. Hein, il va de l'autre côté, là où est la galaxie, l'univers, le cosmos, l'infiniment grand. Les lieux, c'est-à-dire elle travaille où, d'après vous ?
Dans un laboratoire.
Elle travaille dans un laboratoire. Et lui ?
Dans la base de recherche.
Chercheur scientifique, laboratoire d'astronomie, etc.
Sur la photo, l'homme, il a un rôle observateur.
L'homme, c'est le cerveau et la femme, voilà. C'est les mains, en fait.
Voilà, super. Il n'est pas en train d'observer un petit gadget, il est en train d'observer l'univers. Et elle, effectivement, elle est du côté plus de l'exécution. Qu'est-ce que ça vient dire aux filles qui vont faire de la biologie, qui vont être chercheurs au CNRS ?
Il faut aussi qu'elle soit charmante.
Mais ça peut aussi vouloir dire par rapport à l'image qu'on a de la science, d'une matière où on recherche, où on est les scientifiques, hein, les gens qui ne prêtent pas vraiment attention. L'image du scientifique avec les lunettes et la blouse blanche, hein, un truc un peu... Ben non, hein, vous inquiétez pas les filles. Hein. On peut être super jolie même en faisant de la science et garder toute sa féminité, entre guillemets, si la féminité, ce sont des signes extérieurs. Est-ce que si on inversait, si vous aviez vu l'affiche avec une femme, là, exactement cadrée de la même façon, regardant l'univers, et puis un homme en gros plan, regardant son petit flacon, qu'est-ce que ça change dans la perception ?
Parce que si on aurait vu une femme ici, en astrophysicienne, bah, c'est pas très banal. Du coup, ça aurait tapé plus à l'œil.
Je crois que ça aurait fait quelle impression ?
Qu'il y a des femmes qui sont exceptionnelles.
De voir une femme... un rang aussi élevé, avec une intelligence d'homme, quoi. Et voir un homme faire un boulot de femme.
Pourquoi tu dis une intelligence d'homme ?
Parce que normalement, les hommes qui font des grandes études comme ça, ils sont beaucoup plus intelligents.
Est-ce que ça a changé votre idée d'orientation, cet atelier aujourd'hui, ou votre façon de voir les différents métiers ?
Ça change ma vision de voir les choses, mais ça change pas le fait que je vais faire une autre filière, au fait. Parce que ma filière, je l'ai voulu et je veux la faire. Il n'y a pas de métier spécial pour les hommes et de métier spécial pour les femmes. Quand tu as les capacités, quand tu as les moyens et quand tu veux le faire, c'est une question de choix, au fait. Tu peux.
Imaginons, il y a un garçon qui veut faire sage-femme, bah, je pense que ça le motiverait justement à continuer pour prouver que... les stéréotypes, c'est du vent, enfin...
Par exemple, moi, je voulais faire architecte, mais il fallait faire une première science ingénieur. Et comme il y avait beaucoup de garçons, ça m'a démotivée, on va dire, et il n'y avait personne derrière moi pour me dire « oui, tu peux réussir » et tout.
Tout le monde devrait être libre de choisir le métier qu'il veut faire. Enfin, c'est déjà assez compliqué d'en trouver un. En plus, si on ne peut pas en faire un parce qu'on est une fille ou un garçon, je trouve ça ridicule.
Et moi, je pense que le stéréotype, il a plus pris le dessus que le choix qu'on veut faire, au fait.
Je pense, en fait, qu'il faudra sensibiliser, par exemple, dès l'âge de primaire et tout, les femmes, enfin, les petites filles, à plutôt aller dans le domaine de chercheuse et tout, pour bien montrer, en fait, que les filles, elles peuvent tout faire. Et même aux garçons, en fait, de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup de filles qui adorent explorer les planètes, regarder, apprendre et tout. Il y a beaucoup de garçons qui aimeraient beaucoup être, par exemple, infirmières, des trucs comme ça aussi.
En fait, c'est l'influence de la société qui nous range dans des cases. On est un peu limité.
Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour justement te délimiter ?
Ben, faut briser les règles. Faut aller de l'avant. Faut pas se renfermer sur soi-même. Faut dire, je peux le faire, donc je vais y arriver.
Réaction l'une et l'autre à ces paroles des élèves de première ST2I du lycée Guillaume Budé.
Oui. Il y a un paradoxe entre le fait qu'elles sont tout à fait conscientes de ce que... On les voit vraiment analyser la situation de façon très réaliste et leur choix. À oui. Côté, c'est quand même très étonnant. Ce qui me renforce dans l'idée, si vous voulez, que ce que nous avons fait au niveau des livres des femmes scientifiques remarquables du 18e à nos jours est tout à fait fondée.
Voilà, parce une que brochure que vous avez éditée, voilà, 40 femmes scientifiques remarquables.
Oui, parce que ces filles manquent de modèles, c'est très clair. Je n'ai pas choisi parce que j'ai vu que ce n'était que des garçons et donc personne n'était derrière moi pour m'expliquer. Ça permet, en particulier ce livre, permet d'avoir des images et des photos de femmes et des textes qui expliquent que les femmes sont capables d'être de très bonnes scientifiques et à chacune des époques. Et donc, les éditeurs de livres scolaires vont pouvoir prendre ces photos qui sont donc en libre accès pour les mettre dans les livres, de sorte que les filles voient des modèles de femmes qui peuvent réussir en science.
Voilà. Marie-Agnès Bernardi, si on parle précisément de la question des livres scolaires, la représentation des femmes de science est en effet très faible, je crois moins de 3%, c'est ça le chiffre qu'on avance. Mais il faut préciser que ces livres sont faits par des éditeurs privés, ça ne vient pas de l'éducation nationale.
Alors effectivement, il y a la représentation des femmes dans les livres scolaires qui sont sous... Alors les femmes sont sous-représentées en tant qu'expertes, en tant que scientifiques. Souvent, elles sont aussi représentées dans des rôles de mères, avec des enfants. Alors ça, c'est un problème. Je pense que pour inciter davantage de jeunes, et de jeunes en général, hein, à aller vers des filières scientifiques et technologiques, il y a besoin de montrer des femmes d'exception, des femmes qui ont réussi, mais aussi de permettre à des jeunes femmes et des jeunes hommes de rencontrer des jeunes scientifiques, femmes et hommes. Parce que de voir que quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que moi, a réussi, ça peut encourager, parce que les filles ont besoin d'avoir confiance en elles. Souvent, elles osent beaucoup moins. Claudie Agnoret disait, il faut oser, oser, c'est le conseil qu'elle donnait aux jeunes femmes. Oser, oser y aller. Et une jeune élève le dit dans cette interview. Donc, de montrer des rôles modèles qui ne sont pas forcément de la stature de Marie Curie, parce qu'avoir un prix Nobel, qui penserait à 14-15 ans, je vais avoir un prix Nobel, mais de montrer des étudiantes et des étudiants qui parlent de leur parcours, de leur métier, de ce qu'ils aiment dans leur métier, mais aussi de la place des femmes, soit dans leur centre de recherche, soit dans leur entreprise, pour montrer qu'il y a des choses qui avancent, ou en tout cas qu'il y a des politiques égalité, et pour permettre à ces jeunes d'avoir une meilleure idée de la richesse et de la diversité des métiers. Car souvent, les jeunes élèves ont encore des images un petit peu stéréotypées, du scientifique, qui est un homme blanc avec sa blouse, oui, derrière ses, oui, lunettes et un petit peu extravagant.
Mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer, quantifier le phénomène d'auto-sélection ou d'auto-censure qui est très important pour le choix de l'orientation?
Alors, de le quantifier, je ne sais pas. De le mesurer, on le constate empiriquement par des propos qui sont tenus. Une élève disait « Je ne suis pas... Je voulais être architecte et je voulais faire une filière précisément où il n'y avait que des garçons. » Et se sentant seule et n'ayant personne derrière pour l'encourager, c'est ce qu'elle dit, hein, eh bien, elle n'y est pas allée. Donc, c'est là, on est bien dans l'auto-censure et c'est vraiment dommage, parce qu'elle dit à la fin de l'atelier, ben si j'avais eu cet atelier, si j'avais su, je serais allée plutôt vers une filière qui me permettait d'aller dans l'industrie. Mmh. Voilà.
Evelyne Nakache.
Oui, j'ajoute à ce que Marie-Inès dit. En fait, c'est la raison pour laquelle Femmes et Sciences intervient dans les écoles. Et c'est pas seulement des jeunes, c'est beaucoup de jeunes bien sûr, c'est pas seulement des jeunes, parce que les filles se projettent dans l'avenir, elles se voient mères de famille et elles n'osent pas prendre des carrières scientifiques parce qu'elles pensent que ça demande beaucoup beaucoup d'investissement. Alors il y a aussi des femmes d'âge mûr, des femmes comme moi, un peu plus mûres, qui viennent leur expliquer qu'on a eu une carrière, qu'on a eu des enfants, qu'on a eu un mari et qu'on a fait une carrière tout à fait honorable et dans laquelle on a très bien gagné notre vie, voilà. Et ça les motive. Et elles viennent nous demander après, quand on fait des interviews comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment vous avez fait quand les enfants étaient petits, vous les mettre à la crèche, comment, des détails très précis, parce qu'elles s'inquiètent de leur position de femme dans la société, c'est sûr. Alors ce qu'on leur conseille, c'est quand elles choisissent un mari, de bien le choisir.
Mais si on parle de la lutte contre les stéréotypes, avec ce programme Hypatia, vous vous adressez également aux enseignants, hein, vous les encouragez à enseigner les sciences de manière inclusive. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas mettre une appréciation différente à un garçon ou une fille ? Ça veut dire laisser le même temps de parole, le même temps de réflexion dans une classe ?
Alors, enseigner les sciences et les technologies, mais d'autres disciplines aussi, hein, de manière plus inclusive, du point de vue du sexe et du genre, ou mener des activités d'éducation aux sciences, comme on peut le faire dans un centre de sciences, de manière plus inclusive, c'est effectivement veiller à ce que les enseignants, enseignantes ou animateurs, animatrices dans un musée, un centre de sciences, s'adressent aux filles et aux garçons de la même manière, encouragent une égale participation, les intéressent de la même manière. Des études ont montré, elles sont, on peut les trouver, hein, que l'interaction entre les enseignants, les enseignantes et les élèves, elle est différenciée selon le sexe. Et que les enseignants, enseignantes ont tendance à interagir davantage avec les garçons. Souvent, quand les filles lèvent le doigt, on ne les voit pas. Alors, avoir ce souci de davantage d'inclusivité, c'est aussi permettre de partir des connaissances des élèves et d'élargir leur champ de vision. S'intéresser, permettre que les rôles, quand on fait une activité, permettre que les rôles changent et alternent. Par exemple, dans un atelier sur la robotique, faire en sorte que les garçons ne s'occupent pas de la conception du robot pendant que les filles s'occupent du design du robot, mais que les rôles alternent bien et que les filles, elles aussi, fassent de la programmation ou conçoivent le robot ou permettent de tester le robot. Donc, avoir ce souci-là de l'inclusivité, c'est un des grands axes de ce projet Hypatia. Et c'est peut-être dans les projets européens assez récents, enfin en tout cas qui ont une dizaine d'années, c'est un projet qui met l'accent sur ces questions-là, parce que c'est en changeant aussi la manière dont on communique les sciences et les technologies qu'on va intéresser, et en rendant cette communication plus inclusive, qu'on va intéresser davantage de jeunes en général, et de jeunes filles en particulier, à aller vers ces filières et ces métiers.
Alors, on a beaucoup parlé de l'éducation avec vous. On va s'intéresser maintenant au monde du travail, comment les choses évoluent pour les femmes dans les métiers scientifiques et techniques, dans les secteurs publics et privés. On en parle juste après Oumou Sangaré, Kamelemba sur RFI.
Wangare, Kamelemba sur RFI. Quelle place pour les femmes dans les métiers scientifiques et techniques? Aujourd'hui, les débouchés sont nombreux au niveau des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, dans le secteur public, plus dans le secteur public que dans le secteur privé d'ailleurs. Je voudrais vous faire écouter la voix de la climatologue Valérie Masson-Delmotte.
Je suis climatologue, c'est-à-dire que j'ai une formation de physicienne et je m'intéresse à l'évolution du climat et en particulier à quantifier et comprendre les changements climatiques tels qu'on les enregistre dans les carottes de glace au Groenland et en Antarctique. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel et dans ma famille, au sens où on m'a fait confiance dans les choix que j'avais exprimés, on m'a encouragée. Et puis quand je suis arrivée aussi dans ce laboratoire, on m'a fait confiance, on m'a donné des responsabilités, on m'a accompagnée. Donc le prix de femme scientifique, pour moi, finalement, il y a un mélange de sentiments quand je l'ai reçu. Peut-être un sentiment d'humilité, au sens où moi j'ai ce prix, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé. Je n'ai jamais travaillé seule, j'ai toujours travaillé en équipe avec beaucoup d'autres. Et c'est ce travail collectif, je pense, qui est récompensé. Également, le sentiment qu'en France, on a la chance de pouvoir faire, quand on est une femme, une carrière professionnelle et avoir une famille à côté. Ce n'est pas toujours le cas. Dans différents pays, je peux parler de la Suisse, de l'Allemagne ou des États-Unis, il est beaucoup plus difficile de concilier les deux. J'ai été récemment en Inde, j'ai vu la grande difficulté des femmes à faire leur choix, ne serait-ce que choisir avec qui elles se marient, et de pouvoir, une fois qu'elles sont mariées, continuer à exercer une activité professionnelle.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette intervention de Valérie Masson-Delmotte. Elle soulignait le rôle de ses parents qui l'ont toujours encouragée. Elle fait des comparaisons entre la France et les autres pays. Et puis elle parle aussi de la dimension collective de son métier de chercheuse et puis également de la manière dont elle arrive à concilier sa vie de famille et sa vie de chercheuse. Evelyne Nakache, une réaction?
Oui, alors... En particulier, concilier sa vie de chercheuse et sa vie de femme avec des enfants et un mari, c'est en général le plus difficile pour une femme qui travaille, que ce soit dans les sciences ou que ce soit ailleurs. Parce que on a des collègues qui sont commerciales ou qui sont, et c'est quelquefois encore pire parce que là, quand on est commercial, on est amené à changer de pays assez souvent. Comment on fait avec les enfants? Qui les garde?
Et le père?
Voilà. Alors, pour les chercheuses, c'est aussi le cas. Et lorsque j'ai été en colloque en Russie, aux États-Unis, mon mari gardait les enfants. Il n'y avait pas de problème, si vous voulez. C'est une question d'organisation. C'est très clair que c'est une question non seulement d'organisation, mais d'entente dans le couple pour pouvoir mener une carrière. Si le mari n'est pas d'accord, c'est pas la peine d'essayer, parce que c'est tellement difficile que ça aboutit à un moment à un clash. Voilà.
Marie-Annette Bernardi, si on compare le statut de la France avec les autres pays européens, on est plutôt mieux, plutôt moins bien?
Alors, au niveau de... Il y a des variations, évidemment, selon les pays. Et en Europe du Nord, par exemple, on sait qu'il y a un pourcentage de chercheuses plus élevé. Il y a un autre indicateur qui compte également, qui est le pourcentage de femmes qui accèdent, de femmes dans le domaine des sciences et des technologies, qui accèdent à des postes qu'on appelle de rang A, qui correspond au titre de professeur d'université ou de directeur, directrice de recherche dans un organisme ou une institution de recherche. Alors, en France... Alors, parce que la question, bien sûr, il faut qu'il y ait un vivier, qu'il y ait des jeunes qui fassent des sciences, mais il faut aussi que les femmes accèdent de la même manière que les hommes aux postes les plus élevés, ou en tout cas à des responsabilités. Alors la France, pour les postes de rang A, c'est 25%. On doit être peut-être un petit peu en dessous, par rapport aux pays du Nord. Alors tout ça doit progresser, tout ça progresse aussi peu à peu avec... Encore une fois, des programmes. Alors, ça progresse avec les législations nationales, bien sûr, mais ça progresse aussi avec toujours des programmes européens qui permettent à des grands organismes de mener des programmes de structuraux de changement qui permettent aux femmes et aux hommes d'avoir les mêmes carrières, le même type de carrière et le même type de progression de carrière. Il faut savoir que, si on prend un autre exemple sur les inégalités salariales, qui sont encore aujourd'hui un problème, et on espère...
On peut les quantifier?
Alors, on va prendre dans le des ingénieurs. Quand on prend les jeunes qui sortent d'une école d'ingénieur, il y a une différence de 5% à diplôme égal. Il y a une différence de 5% entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Bah parce que les jeunes hommes savent mieux se vendre que les jeunes femmes. Alors, ils peuvent avoir le même diplôme. On sait qu'il y a des barèmes selon les écoles pour les salaires, mais il y a quand même une différence à l'entrée. Il y a aussi une différence dans les écoles, à la sortie d'école de commerce. Alors, il y a des différences de salaire, même si dans la fonction publique, il y a une grille de la fonction publique. Néanmoins, l'avancement n'est pas le même. L'avancement est plus lent ou peut être plus lent pour une femme que pour un homme.
Il y a plus de femmes chercheuses dans le public que dans le privé ?
Oui. Il y a plus de femmes chercheuses dans le public, elles sont 30%, dans le privé, elles sont à peu près 27%. Oui, tout à fait.
Quels échos, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, quels échos rencontrez-vous auprès des pouvoirs publics, des différents ministères avec lesquels vous êtes en contact ?
À quel propos ?
À propos tout ce qu'on vient de dire sur la progression des femmes dans les sciences.
Alors, il y a quand même des efforts qui sont faits. En tout cas, je vois au niveau du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, il y a quand même eu un certain nombre d'encouragements à recruter des femmes, d'une part, et à les amener à des postes relativement élevés. Il y a même eu un moment, si je ne me trompe pas, un quota de 40% qui a été évoqué. Je pense qu'il est en train de se mettre en place.
Et puis, il y a des nominations.
C'est la fin de cette émission. Il y a également des nominations. Je renvoie au site de l'association Femmes et Sciences et au site d'Univers Sciences qui renvoie vers le programme Hypatia. Merci à Apolline Verlon-Raison pour la réalisation de cette émission. À bientôt.
En fait, il y a...